Chapitre 58. La tente, confortablement chauffée, n'avait rien d'une base de campagne. Des canapés de cuir entourant une table basse de verre au pied d'acier. Au centre de la pièce, une longue table couverte de nourriture et de boissons. Une autre hérissée d'ordinateurs et de matériel électronique dans le fond. Le tout chaleureusement illuminé. Un homme était assis, seul, à la grande table, devant une assiette entamée. Il leva la tête vers moi. Je l'avais vu sur les photos de Derek. « Entrez, entrez !» fit Horst Habermeyer. « Soyez le bienvenu. » Il interrompit son repas solitaire d'un élégant tapotement de serviette sur la commissure des lèvres, mais ne se leva pas. Un type solide, les cheveux poivre et sel, la cinquantaine, de fines lunettes cerclées de métal, et un regard qui trahissait l'intelligence. « J'imagine que vous n'êtes pas venu nous présenter vos vœux, » ajouta-t-il, « et vous n'êtes pas de ceux qui changent de camp. Alors, que me vaut l'honneur de cette visite nocturne ? Je souhaitais vous parler personnellement. « Pardonnez-moi, » m'interrompit-il, « je manque à tous mes devoirs. C'est probablement notre chef de la sécurité qui vous a mis la lèvre dans cet état, je vous prie de l'en excuser, il a très mal vécu d'avoir manqué son attentat contre vous. » Il fit un signe à l'homme en costume qui disparut. « Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose ? Pour dîner à 7 heures de la nuit, il devait dormir aussi peu que nous. Devant lui s'étalaient des plats superbes et probablement succulents dont le fumet affolait mon odorat. Après plusieurs jours de sandwich et de gâteaux à la benoît, son filet de bœuf aux morilles me mettait l'eau à la bouche. « Vous n'avez pas l'intention de vous venger sur moi, j'espère, » reprit calmement Habermeyer, « sinon nous n'allons pas être amis longtemps. Nous ne sommes pas amis de toute façon. » Il ne releva pas. On posa devant moi une assiette de fine porcelaine, découverte en argent, une serviette empesée. Habermeyer avait sans doute vu trop de films, on était en plein dans le cliché de l'ennemi riche et élégant du héros. Pour ma part, je ne me sentais pas héroïque du tout. Je fermai les yeux et inspirai à fond. L'homme en costume revint avec du coton et des compresses. « Nettoyez-vous le visage. » Il faisait trop chaud, j'ôtai mon blouson. J'épongeai presque tout le sang et une partie de la poussière. « Un peu de vin ?» Habermeyer tendit la main vers une bouteille de blanc, un grand cru classé de Sauternes. « Une goutte seulement. »« Votre dossier indique que vous ne buvez jamais de vin, je le ferai rectifier. » J'évite d'en boire du mauvais. Vous avez raison de préserver votre palais, vous ne serez pas déçu. C'est un château d'Ikem 1967, un millésime exceptionnel. Cet homme faisait preuve d'un aplomb incroyable. Son fils était en train de mourir à quelques mètres d'ici, s'il n'était pas déjà mort, et lui parlait 20 millésimés comme un châtelain recevant un invité. « Vous avez un dossier sur moi, mais je ne sais presque rien de vous. »« Nous avons pourtant déjà eu l'occasion de nous croiser par le passé. »« Mon nom est Horst Habermeyer, mais je vous soupçonne de le savoir déjà. »« Vous êtes un jeune homme intéressant. Vous avez des talents hors du commun. »« Et je ne parle pas de vos activités cinématographiques. »« Je commençais à en avoir assez de ces mondanités hypocrites. » « Cessons de tourner autour du pot. Pouvez-vous me dire ce que vous faites dans les parages ?»«
Je peux vous retourner la question. »«
Vous procédez à des fouilles, si tant est que le creusage à l'explosif soit une méthode d'archéologue, sur un site que nous avons visité et qui, historiquement, relève davantage de gens qui nous ressemblent que de ceux dont vous vous réclamez. » Votre fiche mentionne effectivement votre redoutable franchise. Je n'aurai pas à faire modifier ce point. Il but une gorgée de Sauternes et reprit. Nous sommes ici pour chercher. Vous donneriez-vous la peine de nous surveiller s'il n'y avait rien à trouver? Votre présence ce soir est une preuve supplémentaire de notre clairvoyance. Pourquoi voulez-vous nous empêcher de faire notre travail?
Quand vous parlez de votre travail, vous faites sans doute aussi allusion à la vente d'armes et de stupéfiants, au trafic des déchets toxiques et à toutes ces spécialités. Vous avez une façon très subjective de présenter les choses. Nous n'obligeons personne à acheter, nous ne faisons que vivre des penchants naturels des hommes et de leurs besoins. En les encourageant et en détruisant tout ce qui pourrait les modifier à votre désavantage. C'est la dure loi du système, nous n'avons pas fait les règles. Je n'avais toujours pas touché à mon verre. La conversation prenait une tournure nettement moins sophistiquée. Nous savons que vous nous surveillez, reprit Habermeyer. Mais nous sommes en règle. Nous avons les autorisations et le droit de fouiller les environs du château. Vous n'avez pas d'exclusivité en la matière. Je pourrais vous faire arrêter pour être entré dans ce camp. Personne ne vous reproche de faire des fouilles. C'est la méthode et votre but qui sont en cause. Vous détruisez des vestiges vieux de plusieurs siècles à coups d'explosifs. Où est le noble discours sur la paix et la fraternité que vous et les vôtres défendez? Où est cette tolérance prétendument séculaire de votre organisation? Vous êtes à ma table, en train d'essayer de me convaincre que je n'ai pas à y être. Apprenez la politesse. Qui donc êtes-vous? De quel droit pensez-vous être les seuls à pouvoir chercher les trésors enfouis dans ce sol? Nous comptons aussi dans nos rangs des descendants de toutes les sectes que vous vénérez. Laissez-moi vous dire une chose, jeune homme. Nous ne vous laisserons pas la place de sitôt. Il reprit une tranche de foie gras et avala une rasade de vin. Il semblait convaincu de son bon droit. Il fallait absolument que je comprenne ce qu'il voulait dire en parlant des descendants de nos sectes et des trésors enfouis. Si vous espérez trouver des trésors, vous allez être déçu, il n'y a rien dans la cache souterraine que vous avez éventrée. Un bref instant, son regard trahit la surprise. Vous l'avez dit vous-même, vous savez que nous vous surveillons. La cache que vous avez mise au jour date du XVe siècle et servait de repère aux bandits qui rançonnaient les pèlerins entre la France et l'Espagne. Elle fut réutilisée à la Révolution pour cacher des hommes et des armes. Elle ne contenait que quelques épées et des écrits d'une importance mineure dont nous avons fait don aux musées régionaux. Vous voyez, vous vous donnez beaucoup de mal pour rien, sans parler des risques. Il suffisait de nous demander et vous ne seriez pas là à vous préparer à réveillonner comme des rats. Nous n'avons pas le même avis. Nos scientifiques pensent que nous pouvons trouver des trésors templiers et je suis sûr que c'est la terreur de nous voir découvrir ces fétiches qui vous a poussé à venir jusque dans ce camp. Lorsque nous les aurons trouvés, nous en tirerons une fortune, peut-être d'ailleurs en vous les revendant. Ne trouvez-vous pas cela amusant? Vous parliez de revanche. En voilà une superbe. Réussir sur votre terrain et en tirer une récompense de votre part. C'est plus que de l'humiliation. Je les vois d'ici, vos spécialistes. Ils valent les vôtres. Ils sortent des mêmes universités. Ils ont peut-être les mêmes diplômes, mais certainement pas la même conscience. Pour approuver vos exactions en sachant le magnifique dessein qu'elles financent, il faut soit y trouver un intérêt personnel, soit ne pas avoir le choix. Mais dites-vous bien une chose, vous avez toujours échoué. Et je crois à la loi des séries. Il n'existe qu'une constante à tous vos combats, la défaite. Que ce soit dans les guerres du passé ou l'économie d'aujourd'hui, la désinformation et la manipulation des chiffres ne vous ont jamais apporté la réussite. Malgré les discours, les promesses démagogiques et la mauvaise foi, le résultat tombe toujours à la fin. Ne donnez pas de leçons, monsieur Habermeyer, et personne ne vous en donnera. Je l'avais vexé. Je le sentais chercher une contre-attaque. Pour ne pas perdre contenance, il se reversa du vin. Son lieutenant entra et lui murmura quelques mots à l'oreille. Habermeyer fronça les sourcils. Il était probablement question de la galerie effondrée. L'homme ressortit.
Mon interlocuteur releva lentement la tête.
« Puisque vous êtes franc, je vais l'être aussi. Nous savons qu'il n'y a rien dans la cache souterraine. Nous sommes cependant conscients que les fouilles sont un secteur sensible pour votre confrérie. Nous n'en connaissons pas encore la raison, mais nous le saurons bientôt. Cette information valait bien une expédition. Vous n'êtes pas sot, et pourtant, chaque fois que nous vous tendons un piège, vous tombez dedans. Ne commettez pas l'erreur de croire que parce que nous sommes pacifistes, nous ne pouvons pas nous défendre. N'allez pas imaginer non plus que nous sommes dupes. Il existe une énorme différence entre nos deux camps, monsieur Habermeyer. Si vous et les vôtres disparaissez, nous aurons gagné. Cependant, nous croyons à l'équilibre et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Si vous, vous gagnez et que nous disparaissons, il faudra encore vous battre contre les vôtres dans vos propres rangs. Nous ne voulons pas votre perte, ce serait impossible. Nous cherchons uniquement à vous contenir et à limiter vos dégâts. De votre côté, vous désirez nous détruire, mais vous n'en serez jamais capable. Il vous manque la cohérence et la foi. Il me fixait de son regard noir, contenant difficilement sa colère. Il était si rare d'avoir le loisir de s'affronter directement. Soudain, il éructa. Je pourrais vous tirer une balle dans la tête pour avoir dit cela et vous prouver le contraire. J'en mourrais, aucun doute là-dessus. Vous m'auriez supprimé en me tirant dessus alors que je suis seul et sans armes au milieu de votre campement. Je deviendrais au mieux un héros, au pire une victime, et vous n'auriez rien prouvé du tout. Je ne vis pas seulement pour moi-même, monsieur Habermeyer. C'est la différence entre nous. Il avait la main crispée sur son couteau. Je bus une gorgée de vin ambré. J'en appréciais la saveur et le soyeux au palais, après quoi je repris. Laissez-moi vous dire autre chose. Je ne serais pas la seule victime si cette idée stupide persistait dans votre esprit. Car moi, mort, qui d'autre pourrait sauver votre fils, qui agonise en ce moment même sous plusieurs tonnes de roches à quelques mètres d'ici? Ce doit être mentionné quelque part sur ma fiche. Je suis meilleur en explosif que tous vos sbires réunis. Tuez-moi et laissez votre fils crever. Il avait lâché son couteau. Je reposais tranquillement mon verre. J'avais sorti mon joker et sa réaction ne laissait aucun doute. Son fils était encore vivant. Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, j'ajoutai. Je vous propose un marché, monsieur Habermeyer. J'essaie de sauver votre fils et vous nous fichez la paix. La première partie s'adresse au père, la seconde au caïd. Je vais faire ce que je peux pour le sortir de là avec ses complices, et en échange, je veux votre parole, que votre organisation cessera toute tentative contre moi et les miens. Il eut un long silence avant de répondre. Vous n'avez aucune confiance en moi. Comment pouvez-vous vous satisfaire d'un tel arrangement? Je n'ai pas confiance dans votre parole d'honneur, mais ce n'est pas ce que je demande. Je veux votre parole de père. Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de vous promettre ce que vous demandez. Il faut que je réfléchisse. Ni vous ni moi n'en avons le temps. Je n'ai pas de fiche sur vous, mais je suis certain que vous êtes en position de le faire. Il avait l'air ébranlé, indécis. Je pesais mes mots. La guerre continue, monsieur Habermeyer. Je ne vous demande pas l'immunité à vie. Je veux juste que vous sortiez nos combats du terrain de la vie privée où vous les avez placés. Ne touchez plus à la vie, ni à la mienne, ni à celle de mes proches. Pour le reste, vous êtes libre. Essayez toujours de nous agresser économiquement et socialement. Depuis le temps, je me suis pour ainsi dire habitué, et vous me manqueriez presque. Une vie privée contre une vie tout court, c'est plutôt une bonne affaire, comme vous dites. Ses yeux étaient moins sombres, son regard moins fixe, sa posture moins rigide. Il était complètement déstabilisé. J'eus un frisson. La fatigue peut-être. Nathan me manquait, mes autres compagnons aussi. Je n'avais qu'une envie, retourner dans les souterrains. Habermeyer baissa la tête. Mon fils et trois autres hommes sont coincés dans la cage souterraine dont le plafond s'est écroulé. Nous avons réussi à leur faire passer un tube d'air, mais nous ignorons comment les dégager. Nous pensons essayer de déblayer avec des engins lourds que nous attendons pour demain, mais il y a un gros risque. Il peut encore se produire un glissement de terrain d'ici là, et les engins pourraient ne pas être capables d'enlever quoi que ce soit sans tasser la terre et les broyer. Notre spécialiste en explosifs est là-dessous avec eux. Il est blessé. Mon fils a le bras cassé, c'est tout ce que nous savons. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. J'ai votre parole, oui ou non. Je vous donne ma parole de père et d'homme. Plus rien ne sera tenté personnellement contre vous et vos proches. Le soulagement m'envahit, mon estomac se dénoua. Je pensais à Nathan, au quai de la Seine, à ma famille. Il ne restait qu'un problème, mais de taille. Il fallait sauver son fils.